La Légion bretonne et autres nouvelles de la forêt d'Orléans par Frédéric de Lignières aux éditions de l'Écluse. Le dessin à la mémoire de Maurice Genevoix. J'étais un gamin de 10 ans et cet homme m'intriguait et me faisait rêver. On disait dans notre petite ville, où tout se savait et où les rumeurs étaient colportées à la vitesse du vent, que c'était un ancien combattant, un poilu, et qu'il avait été grièvement blessé dans les tranchées. J'avais effectivement remarqué qu'un de ses bras était raide et qu'il avait parfois du mal à se mouvoir. On disait aussi que c'était un enfant du pays et qu'il avait quitté notre contrée pour aller étudier à Paris dans une grande école. On pensait que c'était un savant, qu'il aurait pu être professeur, mais que la guerre l'avait gravement traumatisé et qu'il était dans l'incapacité d'entreprendre une véritable carrière. On prétendait qu'il était en train d'écrire un livre sur la Grande Guerre où figureraient tous ses camarades morts au combat. Il louait une petite maison entourée d'un minuscule jardin qui était mitoyenne de la nôtre. Quand je le voyais sortir de chez lui dès l'aube, je savais qu'il allait en forêt et, furtivement, je me glissais dans ses pas. J'aimais l'observer sans qu'il s'en doute pendant qu'il faisait ses longues promenades. Il m'intriguait. La plupart du temps, il était silencieux. Mais parfois, il s'arrêtait et se mettait à parler comme s'il s'adressait à un être invisible pour moi, mais présent à ses côtés. Je n'entendais que le son un peu sourd de sa voix, mais j'étais trop loin pour comprendre ce qu'il disait. Parfois, il s'asseyait sur des troncs abattus et, sortant un papier et un crayon de sa poche, il écrivait pendant des heures. Un jour, une de ses feuilles s'envola sans qu'il s'en aperçoive. Lorsqu'il eut repris son chemin, je m'en emparai, et quelle ne fut pas ma surprise de voir que, contrairement à ce que j'avais cru, il n'écrivait pas, mais il dessinait. Le morceau de papier que je tenais représentait un superbe cerf en train de bramer. Souvent aussi il herborisait, s'arrêtant de ci de là pour cueillir les plantes qui retenaient son intérêt et les placer soigneusement dans le panier qu'il avait emporté. Et quand ce fut l'automne, il se plut à ramasser des champignons. Quand il rencontrait d'autres personnes en forêt, il s'arrêtait pour discuter longuement avec elles. Charbonnier, chasseur, bûcheron paraissaient bien le connaître et prenaient plaisir à sa conversation. Un jour, que je l'avais devancé et que je m'étais caché dans les taillis en avant de lui, une harde traversa le chemin en musant et en folâtrant. Et je vis qu'en les regardant, des larmes coulaient sur son visage malgré le sourire heureux qu'il arborait. Quand il s'arrêta plus tard et prit son crayon et son papier, je devinai qu'il était en train de dessiner les cervidés. Chez nous, chacun respectait, et sans doute comprenait, son besoin de solitude, et nul ne l'aurait abordé si cet homme n'en avait manifesté le désir. Mes parents m'auraient certainement grondé et puni s'ils avaient su que je l'espionnais chaque fois que je pouvais m'échapper à sa suite. Mais comme ils ne s'en aperçurent jamais, ils ne purent m'empêcher de continuer à le suivre. Je ne sais comment cela se fit, mais un jour, alors qu'il marchait particulièrement vite et que je devais presque courir pour le rattraper, il s'arrêta net devant moi. C'était si soudain qu'emporté par mon élan, je faillis le percuter. Il se retourna en me saisissant par les revers de ma veste et dit d'un air rieur. « Enfin, je te tiens, petit espion. Vas-tu m'expliquer pourquoi depuis tant de jours tu t'attaches à mes pas ?» Troublé et honteux d'avoir été démasqué, je bredouillai lamentablement. Puis je me ressaisis et inventai un mensonge plausible. « C'est que j'aime vos dessins, monsieur. Je les aime tant. » « Et comment sais-tu ça que je dessine ?» Maladroitement, je sortis de ma poche le dessin du cerf, un peu froissé, mais que je gardais comme un trésor, et le lui tendis. « Ainsi tu l'as trouvé le jour où je l'ai perdu, » dit-il pensif, « et tu aimerais savoir toi aussi dessiner des animaux. »« Oh oui, mais je ne crois pas être assez savant pour faire comme vous, » bredouillai-je embarrassé. « On n'a pas besoin d'être savant pour dessiner, » dit-il en riant. « Si tu veux, je t'apprendrai, mais à une condition. »« Laquelle, monsieur ? » m'écriai-je, prêt à tout accepter pour rester dans la proximité de ce personnage mystérieux. « Il faut que cela reste un secret entre nous. » Je lui jurai que je ne le dirais à personne, heureux de la tournure que prenaient les événements et surtout soulagé qu'il ne se fâchât pas du fait que je le suivais à son insu. Et depuis ce jour-là, il me fixa chaque semaine des rendez-vous en forêt pour m'apprendre à dessiner. Il m'apprit surtout à regarder et à admirer la nature autour de moi. Grâce à lui, je remarquais des choses qui, alors que je les croisais quotidiennement, m'avaient jusque-là laissé indifférent. Je parvins aussi à croquer quelques animaux sans trop de maladresse. Je retins de ses leçons le nom des arbres et des plantes. Durant nos promenades, il me parlait de son ambition, devenir peintre, de préférence peintre animalier. Il me décrivait aussi les œuvres d'artistes célèbres qu'il aimait. Parfois, il apportait des photos de leurs tableaux découpées dans des magazines. Un jour, il me dit que nous n'allions plus nous revoir avant longtemps. Il devait retourner à Paris pour plusieurs mois. Et ensuite, il partirait probablement en voyage. Son absence allait être si longue qu'il n'habiterait plus la petite maison voisine de la nôtre. « Je reviendrai au pays, me dit-il, mais plus tard. Et sans doute, à ce moment-là, nous nous reverrions. » Mais c'est moi qui ai quitté notre petite cité pour n'y plus revenir. D'abord, je suis partie en ville, comme pensionnaire au lycée, puis comme étudiant à l'université. Après avoir réussi mon diplôme d'architecte, je me suis installée dans le sud de la France. J'ai entendu dire que lui, il était devenu un très grand écrivain.